Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Karine Beigbeder, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez me confier, nous confier, s'il vous plaît, une faute de goût vestimentaire qui est malheureusement particulièrement à la mode ?
Voilà, je ne me permettrai pas de juger les fautes de goût, mais il y a un concept avec lequel je ne suis pas très à l'aise, c'est le concept de vêtements à la mode, tout simplement, parce que j'aime les vêtements qui racontent une histoire, qui traversent le temps et qui s'affranchissent des dictates de la mode. Il y a quelques années, ma maman m'avait offert des chemises Yves Saint Laurent quand elle avait 30 ans. Je continue à les porter tous les jours et pour moi, elles sont complètement indémodables, intemporelles et mon rêve, c'est quelque part qu'un jour, mes filles transmettent nos chemises bourriennes à leurs propres enfants. Donc, je crois que le concept du vêtement à la mode, c'est pas quelque chose que j'aime trop.
Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui Karine Beigbeder qui souhaite que les vêtements aient plusieurs vies et qu'on puisse les transmettre, et qui est DG de la marque de chemise Bourrienne, qui est également le nom d'un hôtel particulier du 10e arrondissement de Paris qui abrite son showroom, sa boutique, une marque de chemise qui a une particularité, justement tous les modèles sont blancs. Il y a zéro couleur chez Bourrienne. Karine Beigbeder, est-ce que vous pourriez me faire non pas un essai ou une chronologie très longue et laborieuse de la chemise blanche, mais peut-être me raconter l'histoire de la chemise blanche à travers les siècles, qui la porte, pourquoi ?
Alors, au départ, dans l'Antiquité et pendant le Moyen-Âge, la chemise blanche, c'était vraiment un sous-vêtement. C'était quelque chose qu'on ne montrait pas, il n'y avait aucun artifice, c'était quelque chose de très brut, qu'on portait à même la peau et qu'il ne fallait surtout pas montrer. Petit à petit, au fil des siècles, il y a eu des détails qui l'ont orné, des soieries, des collerettes, des froufrous. Et c'est seulement au 19e siècle que c'est vraiment devenu un élément phare pour le vestiaire masculin et un élément de différenciation sociale aussi. C'était très important. Elle s'est ornée de cols, de plastrons, de poignets, qui avaient toute une histoire.
C'est le fameux col blanc.
C'était les fameux cols blancs. Et pour la femme également, ça a été un élément clé de l'émancipation de la femme. De nombreuses actrices hollywoodiennes ont commencé à porter une chemise blanche comme un outil presque politique et d'émancipation de la femme. Donc c'est une pièce qui est très intéressante parce qu'elle raconte vraiment une histoire à travers les siècles. Et elle a eu beaucoup de symbolique derrière la chemise blanche.
Ouais, la chemise blanche, au début, c'est pour les hommes et c'est devenu... une habituée du garde-robe féminin. À partir de quand, là, vous citiez les actrices hollywoodiennes, c'est vraiment elles qui ont lancé cette chemise blanche au féminin, ou...
Je crois Greta Garbo, Catherine Hepburn, tous ces artistes qui ont porté la chemise blanche et qui ont c'est elles qui ont commencé à la mettre à la mode. Ouais.
Alors, est-ce que une chemise blanche, ça va à tout le monde, Karine Beigbeder? Est-ce que tout le monde peut se permettre de porter une chemise blanche aujourd'hui, ou alors c'est réservé encore qu'à certains physiques, c'est réservé qu'à certaines professions?
Alors, absolument pas réservé à certains physiques. Je pense que ça va vraiment à tout le monde. Ça apporte une élégance assez naturelle. C'est assez brut. C'est ce qu'on aime d'ailleurs. Et je pense que nos clients d'ailleurs sont... On n'a pas un stéréotype de clients. Nos clients sont très diversifiés. Ça peut être des entrepreneurs, des artistes, des sculpteurs, des financiers, des avocats. La femme bourrienne est une femme qui en général... très passionnée, très libre, très indépendante. Et je pense que la chemise, quelque part, est un élément où elle se reconnaît dans son caractère. Mais une chemise blanche va à tout le monde. On a vraiment, nos clients ne rentrent pas dans des cases du tout. C'est assez large. C'est assez large. Et en revanche, ça assure une certaine élégance simple mais assurée, en fait. Ça donne une certaine assurance, la chemise blanche, je pense.
Une élégance, une assurance qui ne se périme pas, qui ne se passe pas de date. Là, vous avez évoqué, vous avez dit Les écrivains, les poètes, les entrepreneurs, etc. C'est aussi les noms de vos différents modèles. Aujourd'hui, tout le monde vend des chemises blanches. On peut en trouver chez H&M, enfin, sans citer de marque, mais chez tout le monde. La chemise bourrienne, elle a quoi comme particularité par rapport à toutes les chemises blanches qu'on trouve partout,
en fait? Je crois qu'on a un concept qui est assez singulier. Alors, chez l'homme, finalement, la chemise blanche a souvent été très classique. On a des acteurs qu'on admire beaucoup, comme Charvet, mais qui font des chemises très, très classiques. Et nous, on essaye d'apporter une certaine modernité tout en gardant des chemises très intemporelles et très classiques en même temps. Donc vraiment, on joue sur ces deux concepts, le concept à la fois de chemises intemporelles et modernes à la fois. Je pense que c'est ça qui nous différencie. Et nos chemises, je crois, sont assez singulières quelque part. Et la chemise blanche, c'est un peu comme une page blanche. C'est vraiment une source de créativité infinie. On a une infinie de détails qui différencient nos chemises. On a des plastrons plissés à la main dans des ateliers en Bretagne. On a des galons brodés qui s'inspirent des décors de l'hôtel de Bourrienne, qui font revivre l'hôtel en fait sur des galons brodés. On a des poignées, une infinité de poignées différents qui plaisent plus ou moins à certaines personnes. On a des cols, une infinité de cols également. Donc une infinité de détails qui font la différence. Et puis après, des détails très subtils, très cachés aussi. On n'a pas d'étiquette chez Bourrienne. Le nom de la marque est gravé blanc sur blanc, est brodé blanc sur blanc dans le dos. Le nom de la chemise, le modèle de chemise est brodé à l'intérieur du poignet. On a une infinité de détails qui font la différence.
Et vous avez évoqué aussi d'ailleurs l'hôtel particulier Bourrienne. Est-ce qu'il y a un lien direct entre cet univers, cet endroit où vous vous trouvez, je crois, en ce moment, et les chemises que vous inventez, que vous confectionnez? Est-ce qu'il y a un lien entre cet endroit particulier de style directoire et ces modèles de chemises?
Il faut savoir que l'hôtel de Bourrienne est en effet un lieu absolument magique. C'est un des derniers témoins du directoire. Le directoire, c'est une période très courte après la Révolution où les gens avaient envie de faire la fête. Donc, c'est un hôtel qui a vécu et je trouve qu'on ressent dans l'hôtel une joie de vivre très forte et dont on s'inspire. Donc, nos modèles sont très gais et on s'inspire d'une infinité de détails. On a des boutons de manchette qui reprennent des fleurs qui sont sur les murs de l'hôtel. On a des carrés de soie qui reprennent les plafonds de l'hôtel, on a les galons, je vous disais tout à l'heure, qui reprennent des galons qui sont brodés et qui reprennent les décors de l'hôtel également. Donc c'est une source de créativité infinie, c'est une vitrine qui est formidable pour tous nos partenaires, que ce soit des acheteurs, des journalistes, des partenaires, des marques avec lesquelles on voudrait faire des collabs. C'est vrai que c'est un lieu qui est très inspirant, et qui est très gai en même temps et qui est très moderne à la fois. C'est assez incroyable parce qu'il y a des couleurs incroyables, et c'est un lieu qui est à la fois très moderne.
Donc, Bourrienne, c'est une marque qui est plutôt premium. Hein. On l'a compris, vous êtes distribué par exemple au Bon Marché Rive Gauche à Paris et dans différents magasins plutôt de luxe. En Europe, la suite pour le développement de cette marque, c'est quoi? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Alors, on est encore tout au début. Hein. On est en effet au Bon Marché. On a réussi une implantation assez rapide sur le marché japonais. On est dans 45 points de vente au Japon et dans des très, très beaux points de vente. On est dans les équivalents du Bon Marché là-bas. On a un corner de 25 mètres carrés chez Tomorrowland. Donc, on est une très belle vitrine au Japon. Dans le reste du monde, je dirais, il y a encore tout à faire. On est en train de développer les Émirats, la Belgique, l'Italie. On est très peu présent encore aux États-Unis, mais on a des ambitions là-bas. Enfin, je crois qu'on a deux piliers de croissance. C'est l'international et évidemment le digital. Le digital, on a commencé à se structurer l'année dernière. On a profité un peu du confinement et de cette période qui était un peu plus calme pour se structurer sur le digital. Donc, on a mis en place plein d'outils. Et aujourd'hui, je crois qu'on est prêt. Je crois qu'on est prêt pour accélérer. On teste des campagnes digitales qui commencent à prendre. On a des produits qui se vendent bien sur Internet. On est référencé également chez Matches Fashion, qui est le grand acteur du luxe dans le digital. Et aujourd'hui, on fait plus de 50% de notre chiffre sur le digital, entre notre site Internet propre et Matches Fashion. Et donc, c'est clairement un vecteur de croissance important parce que ça nous permet de nous développer sans trop de capitaux et de façon organique assez rapide. Donc, on est très confiant sur ce canal.
Karine Beigbeder, vous parlez de capitaux, vous avez une solide expérience dans les fonds d'investissement, la financière Arbevel, je crois. Est-ce que cette expérience dans les fonds, dans la finance, ça vous aide aujourd'hui à mener cette aventure de
Oui,
la
oui, bien
chemise
sûr.
bouclée?
Oui. J'ai passé en effet précédemment presque 10 ans à gérer un fonds de small cap coté. Donc, je passais mon temps à rencontrer des entrepreneurs parce que j'investissais dans des petites sociétés cotées. Donc, je rencontrais des patrons. Et je pense que depuis toujours, j'ai été baignée dans cet univers entrepreneurial. Mon père était avocat, il a monté sa cabinet d'avocat très tôt. Charles a créé sa première boîte, j'avais moins de 25 ans. Donc, je pense que et les aventures entrepreneuriales me fascinent, et particulièrement dans les périodes qui sont difficiles, dans les périodes de crise, voir des entrepreneurs qui arrivent à s'adapter, à créer parfois des nouveaux marchés, à complètement disrupter un modèle, je trouve ça assez fascinant. Et à force d'en rencontrer beaucoup, j'ai eu envie moi-même de passer le pas et de devenir un peu plus opérationnel. Mais c'était très utile et j'ai adoré mon métier de gestionnaire. Et ce que j'aimais particulièrement, c'était les aventures humaines et les aventures entrepreneuriales qui se cachaient derrière chacun des projets.
Et Dieu sait qu'il existe, Karine Beigbeder, des entrepreneurs qui sont obligés, par la force des choses, de rebondir en ce moment avec cette crise sanitaire qui n'en finit plus. Je vous remercie infiniment, vous, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, à bientôt, peut-être à l'hôtel Dubourienne ou à la terrasse d'un café quand,
avec plaisir.
Quand
je
la libération.
À l'hôtel Dubourienne. À bientôt.
À bientôt, bonne journée.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.